Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller du côté du Lez. À coup sûr, beaucoup d'entre vous vont s'y promener ou s'y livrer à d'autres activités ludiques, comme on dit, dans ce rapport familier au principal fleuve de notre territoire. Nous allons regarder de plus près cette relation et au-delà, nous découvrirons une approche sensible de cette richesse naturelle, mais aussi culturelle. Nous irons de même dans d'autres territoires. Pour cette déambulation, j'ai sollicité deux guides qui pilotent l'agence Bipolar, Mathieu Argot et Marjolaine Combes. Merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. Alors, petit aperçu de votre riche et divers parcours respectif. Mathieu Argot, vous avez assuré la production de projets dans la danse et les arts visuels. Vous avez été consultant et formateur au sein de la coopérative culturelle Illusion et Macadam à Montpellier. On y reviendra avec des interventions, entre autres en Gironde, du côté de Narbonne ou au Bénin. Vous avez structuré l'activité de production artistique d'Illusion et Macadam. Marjolaine Combes, vous avez également œuvré dans l'accompagnement et le pilotage de projets culturels, en particulier à Montpellier, à l'Ateline, lieu de création artistique pour l'espace public, et pour le festival Magdalena sur l'égalité femmes-hommes. Vous avez aussi assuré des missions d'ingénierie de projets territoriaux à Sète et à Marseille. Voilà pour les présentations. Et avant de parler Bipolar, un petit détour, pas très lointain, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors Marjolaine Combes, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement et que vous pouvez recommander à vos amis et donc aux auditrices et auditeurs de Divergence?
Bonjour déjà, merci de l'invitation. C'est une question difficile en fait.
Il faut choisir.
Oui. Ouais, c'est ça, il faut choisir. Parce que j'ai un attachement fort à Montpellier dans une vision un peu large, enfin, oui, une approche sûr. Un peu large qui inclut les étangs, bien sûr, les bords de mer, l'arrière-pays. Et je trouve qu'il y a une telle diversité là de paysages et d'ambiances que j'ai du mal à me concentrer sur la ville elle-même.
Là, pas de problème.
D'autant que j'aspire de plus en plus quand même aussi à en sortir un peu parfois. Après, avec les projets qu'on a menés, bah, évidemment, on a rencontré le Lez. Là, je rencontre fortement la Mausson et je découvre des endroits merveilleux.
Pas toujours d'ailleurs bien connus des
habitants. Pas toujours bien connus, surtout la Mausson, effectivement. La réserve du Lez, évidemment, qui est un endroit magnifique là, entre la Valette, en bas du zoo. Voilà. Après, j'aime bien la proximité de là où je vis. J'aime bien la place Carnot. J'aime bien ces endroits là avec les petits commerces où je prends mes habitudes comme tout le monde, je crois.
Mais parce qu'on va où c'est près de la gare.
Voilà, derrière la gare, c'est ça.
Très bien. Alors même question.
Et j'aime bien, ce que j'aime qui n'est pas un lieu, c'est la lumière.
Ah, la lumière.
La lumière de cette ville, la lumière de fin de journée, c'est vraiment un ravissement, quoi.
Très bien. Alors, nous voilà embarqués dans la rêverie que peut-être suscite la lumière de Montpellier. Et vous, Mathieu?
Alors, bonjour. Merci de cette invitation. Moi, je crois que j'ai une tendresse particulière pour le Jardin des Plantes à Montpellier, parce que j'y suis allé régulièrement avec ma fille quand elle était petite. Déjeuner à midi. Et tout me plaît là-bas, sur les moments d'hiver, de printemps, la lumière, l'ambiance qu'il y a, une ambiance un peu désuète. Moi, j'aime beaucoup ce cadre-là.
Un peu défraîchi,
un peu défraîchi,
qui a entretenu quand même, qui a ce charme-là, un peu presque suranné, mais
oui, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et puis, effectivement, les berges du Lez qu'on a pu découvrir, moi, j'ai découvert la réserve du Lez tout en bas du zoo. C'est un endroit qui est merveilleux. C'est un petit paradis. Et c'est vrai qu'on s'y promène pas souvent, donc je le conseille.
Très bien, on va revenir sur les bords du Lez dans quelques minutes. Alors, deuxième question, là, vous vivez l'un et l'autre depuis à peu près 25 ans, donc vous avez vu la ville évolué, bon, des mutations très profondes. Qu'en pensez-vous, là, Marjolaine ?
Ben, il y a des paradoxes, évidemment. Moi, je
un point de vue, comment dire.
Ouais.
Mixte ou ambigu.
Bah, je trouve qu'évidemment, en 25 ans, une sensation de densification, mais pas seulement sur les questions d'habitat, mais même de parfois un peu de resserrement comme ça. Alors, c'est sûr que c'est une ville de travaux, beaucoup, hein, ça, c'est les réputés pour.
Moment, là,
et notamment avec ce tramway et ces années qui succèdent comme ça. Donc,
il faut patienter jusqu'au mois de décembre, ça ira mieux.
Mais ça fait quand même longtemps que ça dure. Et en même temps, c'est des équipements super, donc importants et beaux en plus. Et en même temps, depuis quelques années, moi, je trouve vraiment une sensation de cette question de la nature en ville. Alors, sans me prononcer sur est-ce que c'est des bons choix, des mauvais choix, c'est pas l'enjeu, mais en tout cas, dans la vie quotidienne, moi, je la parcours à vélo, je vois bien à quel point, quand même, apparaissent, émergent des espaces plus ou moins petits, plus ou moins grands. Ça, c'est très, très, très agréable, clairement.
Ça, on apprendra la pleine dimension, effectivement, également quand les travaux seront finis. Parce que, par exemple, la place 8045, qui est épouvantable, qu'on soit en voiture ou à pied, bon, on voit apparaître les espaces verts.
Mais quand même, ça fleurit, ça verdit.
Alors, même question à vous, Mathieu. Parce qu'il y a des points de vue contrastés, quoi. Il y a un point de vue très conservateur. Ah, c'est pas le Montpellier des années 70, certes. Et puis, il y a les tenants de la métropolisation qui, elle-même, suscite des débats.
Donc, oui, mais c'est vrai qu'en 25 ans, la ville, elle a énormément changé. Après, moi, je viens d'une ville d'un peu plus au nord, à Saint-Étienne. C'est des villes qui évoluent beaucoup, beaucoup moins vite, mais qui sont aussi moins attractives. Hein. Moi, je trouve ça plutôt agréable, en fait, hein, tous ces changements, parce que ça va de l'avant, parce que y a des vraies et belles transformations. Marjolaine le disait sur la place de la nature en ville, sur la place du vélo, mais aussi sur les espaces publics qui se transforment. Moi, j'aime bien cette volonté là de construire un peu la ville sur la ville, de la transformer. J'aime bien ça, moi. Je trouve ça plutôt agréable. Effectivement, il y a les travaux. Bon, mais quand ça sera fini, ce sera chouette.
Très bien. Alors, venons-en maintenant à Bipolar. La première question, un peu banale, mais inévitable. Quel sens donnez-vous à ce nom de l'agent, au nom de l'agent Bipolar ? Alors, on ne va pas renvoyer un sujet, notamment à la mode des dernières semaines, sur la bipolarité des personnes, mais Bipolar, il y a quand même une intention qui semble apparaître.
En 2010, on n'avait absolument pas entendu parler du mot anglais bipolar, donc il parlait de la bipolarité, donc ce n'est pas le sujet. Non, c'était avec Grégory Diguet, quand on a imaginé cette agence, où à l'époque on parlait de bureau de production, très orienté art, sciences et technologies. On faisait surtout référence en fait au grand paradigme des deux grands pôles magnétiques et de leur découverte et de leur c'est devenu pendant longtemps la science a travaillé sur ces choses-là et ça a déterminé énormément de choses sur un grand vaste champ de connaissances.
Cette inspiration, cette ressource du côté de la science qui était un des facteurs de création et de positionnement de l'agence.
Ouais.
Alors justement, quelle était la vocation originelle de l'agence ? Et peut-être Marjolaine pourra poursuivre. Et comment, au fil des années, depuis 2010, dans cette période, qu'est-ce qui s'est passé, quoi,
à ce moment-là, il y avait...
Des fois, on a un projet, une idée, on réfléchit, et par la force des choses, ou par l'évolution du contexte, ça bouge.
Oui, alors, à cette époque-là, il y avait surtout beaucoup de projets art science qui arrivaient. Il y avait des projets très ambitieux. Il y avait un besoin, en tout cas, on a senti le besoin d'accompagner, de produire, d'accompagner les artistes sur ce champ-là, art science et technologie. Il y a beaucoup notamment dans le champ des arts visuels, le champ des arts plastiques, et c'est arrivé comme ça. Donc du coup, on est des producteurs, on accompagne les artistes, on peut accompagner et imaginer comment produire leur projet. Voilà, donc ça a commencé comme ça avec Grégory Diguet et à peu près jusqu'en 2017-2018, on a tenu cette ligne-là. pour ensuite faire un virage parce que parce qu'on vieillit, parce que on change, parce qu'on s'épuise et qu'on avait puis que le monde change aussi autour de nous et on a eu envie de travailler beaucoup plus dehors, beaucoup plus avec des artistes qui accompagneraient cette logique de transition des territoires, la transition écologique, parce qu'ils produisent des signes, des images et qui nous ils ont cette capacité en fait à nous emmener vers un futur ou en tout cas nous à faire projeter via des œuvres et des réalisations comment serait un futur plus désirable. Et on avait surtout envie de travailler chez nous, dehors, sortir des centres d'art.
Oui, c'est ça.
C'est ça, c'est qui a vraiment poussé notre...
Le vent du mouvement, le vent de la nature.
C'est ça, et on n'imaginait pas qu'on allait travailler sur le Lez ou sur la Mosson, par exemple.
Alors, bon, Mathieu l'a évoqué, donc ce lien art et science, bon, en tout cas dans les arts visuels, mais dans le spectacle vivant, j'ai le sentiment que c'est peut-être moins présent. Là, vous, dans votre parcours, vous avez pu mesurer l'émergence de ces préoccupations, là, de lancer les passerelles vers un univers autre que la création artistique, pour aller vers la création scientifique, pour le coup.
Alors moi, de mon parcours dans le secteur culturel qui était beaucoup orienté sur les arts dans l'espace public, les arts de la rue, on l'a pas sur la partie science au sens un peu science dure ou technologie, on l'a évidemment l'arrivée parfois du numérique dans certaines créations, mais on l'a pas tellement vu. En revanche, enfin moi je l'ai pas tellement observé. Après, là où les artistes ont beaucoup, ils continuent de beaucoup œuvrer, je trouve, pour ceux qui s'intéressent à la question de l'espace public, c'est plutôt sur la fabrique de la ville, sur les questions d'urbanisme. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui s'appellent urbanisme culturel, mais ça fait longtemps que les artistes de ce champ-là viennent questionner. Alors, quand je dis la fabrique de la ville, c'est au sens large, hein, parce que ça peut être la fabrique.
Oui, c'est pas que du béton. C'est
voilà,
pas que,
et c'est pas sûr, que la ville, c'est les territoires, en fait. Oui. Hein, donc, ça peut être aussi la ruralité, etc. Après, sur les questions écologiques, quand même, quand, sur la fin de mon parcours, notamment à la Théline. Milieu, 2015-2017, et puis un peu avant, on a vu quand même des artistes s'emparer de cette question de l'écologie, dans le cadre du spectacle vivant, avec des manières très différentes de ce qu'on fait nous aujourd'hui, hein, et de ce qu'on accompagne aujourd'hui, mais
avec
évidemment...
Avec l'exploration de cette voie nouvelle, pour le coup.
Oui, 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 en tout cas en termes de thématiques, en termes d'enjeux de société d'aujourd'hui,
Très bien. Alors, je l'évoquais, vous avez des liens forts avec Illusion et Macadam, cette coopérative d'animation et de création culturelle lancée en 2006 et qui rayonne depuis là le tropisme. Alors, ces liens anciens et actuels, quels sont-ils, Mathieu Argot ?
Illusion et Macadam, ça date de plus longtemps que ça. Hein. Ouais. C'est 2000-2001, je crois, c'est l'arrivée sur Montpellier. Moi, je les ai rejoints, je crois, en 2005 ou 2006. Donc les liens sont, c'est des liens à la fois amicaux, professionnels. On imaginait comment construire une sorte d'association, une structure professionnelle support au secteur culturel. Comment mutualiser des services, des moyens. Et on a fait petit à petit les uns et les autres. Là, en tout cas pour les plus anciens, on a fait notre parcours, une bonne partie de notre parcours professionnel au sein de cette coopérative qui a grossi, qui s'est structurée. Donc le lien est très fort en fait. Et aujourd'hui, l'association bipolaire qu'on a montée il y a assez peu de temps, puisque pendant longtemps on s'appuyait sur la coopérative pour produire et pour produire les services et répondre et construire les projets qu'on a menés. Les liens restent encore très forts. C'est des liens à la fois financiers, mais c'est des liens support, puisqu'il y a toute une partie de... l'ensemble du back-office administratif, comptable, est assuré par Illusion Macadam. Donc on continue à être dans une espèce de... C'est très organique, en fait, notre relation.
Oui, je vois, une comparaison biologique plus technocratique.
Oui, tout à fait, oui.
Très bien. Oui, oui. Bon. Alors, il y a un aspect aussi que vos différentes initiatives confirment, c'est l'installation dans l'univers de l'économie sociale et solidaire. Bon, c'est un sujet ici qui nous intéresse, pas seulement parce que Divergence est basée sur une association, mais on est amené à s'intéresser, y compris dans cette émission, à ce phénomène-là important. Alors, pour chacun de vous, dans ce qui vient d'être décrit, quelle est la part d'engagement personnel, peut-être d'un socle de conviction dans le développement de ces activités. Comment faites le lien entre ce que vous êtes et ce que vous faites?
Ben, moi, pour ce qui me concerne, je dirais que ça s'appuie un peu sur deux piliers qui sont ce que je suis, qui me constituent ou qui m'ont constituée au fil du temps. La dimension partenariale forte, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours mené des projets, ça peut paraître une lapalissade, mais des projets qui impliquaient d'autres acteurs d'un territoire et qui venaient s'ancrer. J'aime beaucoup ça. Avec la Téline, c'est ce qu'on a développé aussi, cette idée de contextualiser les projets, faire en sorte qu'ils soient le moins parachutés possible.
Enracinés.
Enracinés, absolument, et qu'ils se construisent avec une multitude de partenaires, d'acteurs locaux, de l'habitant à la collectivité, en passant par tout type d'organisation. Donc ça, c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui à Bipolar, en fait, et que je porte plus particulièrement et que j'aime beaucoup, beaucoup faire, animer comme ça ce réseau
tisser
de partenaires,
des liens,
tisser des liens, mettre en lien, mettre en relation. Ça, j'aime beaucoup. Et après, dans ce qu'on fait là, plus spécifiquement depuis quelques années, là où je me retrouve moi beaucoup, c'est cette dimension très sensible. Cette dimension qui vient mobiliser chez nous nos affects, nos attachements, notre sensibilité, nos sensations. Parce que je trouve que c'est le socle commun de tout humain, voire au-delà même. Et qu'on est tous doués de sensibilité. Alors parfois, elle est fortement enfouie pour certains.
Elle mérite à se révéler, du coup.
Voilà. Pour d'autres, elle est très, très apparente. Mais en tout cas, c'est un bagage commun qu'on a et qui fait que peut-être c'est un langage commun possible.
Alors, Mathieu, à vos propres mots, vous allez raconter quelque chose de voisin, je suppose.
Oui, je pense que c'est très voisin. Moi, je crois beaucoup à la force du territoire. C'est pareil, hein, ça fait partie des. C'est là aussi d'où je viens. À la force des gens, de leur solidarité, leur lien entre eux. Et je crois beaucoup à la force de la création artistique, de l'imaginaire, la force de l'imagination. Pour pouvoir imaginer, c'est Pierron qui disait ça, le philosophe, imaginer mieux pour penser plus loin. Donc c'est deux choses qui sont très très fortes et qu'on retrouve aujourd'hui encore dans l'activité, quoi.
Très bien. Alors, le temps file avançant. Donc j'ai parlé du LES, attaquons cette opération. Donc vous avez lancé une opération en 2022. Quelle a été son origine, comment, j'indique au passage que Divergence y a pris une petite part, quels étaient les objectifs et à grands traits les principales étapes là, de cette initiative, si Marjolaine peut nous en parler, vous compléterez éventuellement Mathieu.
Oui, alors la petite genèse, c'est un moment, le directeur artistique de la ZAT, Pascal Lebrun-Cordier à l'époque, à qui on demande de refaire une ZAT à Antigone en 2022, qui nous connaît, qui sait ce qu'on fait aussi avec les cours d'eau, puisqu'on a travaillé sur les questions de culture du risque inondation au bord du fleuve Rhône pendant plusieurs années. Hein, ça a été le fameux virage dont parlait Mathieu tout à l'heure. Et Antigone, le Lez, les berges du Lez, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à nous proposer?
Et ça a été l'opportunité. Beaucoup pour articuler le Lez sur Antigone,
voilà.
ou un lieu, bien sûr, les principales.
Et il voulait investir les berges, et c'est vrai qu'il nous sollicite. C'était le lancement de la candidature à la capitale européenne de la culture, de Montpellier. Et donc, on se dit, c'est l'opportunité pour nous, ça y est, de venir un peu travailler chez nous, ce qui n'était pas trop le cas jusque-là. Donc, on s'est emparé de ça, dès le départ, avec notre collègue associé Pascal Ferrand, dont on reparlera peut-être plus tard, mais sur un travail autour du Lez, venir justement chercher un peu la parole des gens sur la question de leur attachement au Lez, leur relation intime à ce fleuve. La question, elle n'était pas technique ni scientifique, elle était plutôt de cet ordre-là. Donc, on a enquêté, on a rencontré des gens, on a produit avec Divergence donc, deux émissions de radio en public pendant la ZAD sur les berges du Lez. Ça s'appelait Écouter Lez à l'époque. On a fait intervenir aussi un artiste qui est venu interviewer des gens, etc. Et puis après, on a enchaîné avec un autre projet. Tout ça, c'était toujours à la faveur de la candidature dans le cadre des appels à projets de M28 qui nous ont permis de développer et de venir explorer de manière un peu plus approfondie le Lez avec un second projet qui s'appelle Rassembler Lez où là, on a constitué un groupe d'habitants.
Une vingtaine, c'est ça?
Oui, entre 20 et 25, à qui on a proposé un parcours apprenant. Où là, on a essayé de travailler sur la montée en compétences, à la fois technique, scientifique, connaissance du Lez, mais aussi, surtout, connaissance sensible du Lez et faire remonter le savoir sensible que ces habitants-là, avec nous, avaient de ce fleuve.
Alors, On me dit qu'il reste 10 minutes, on va essayer de les utiliser au mieux. Alors, deuxième, bon, donc, ça a servi à la fois d'une opération réelle, mais aussi de prototype, en quelque sorte, de manière de faire que vous avez mise au point et peut-être développée ailleurs, là, Mathieu.
Oui, c'était, il y avait aussi cette idée de partir, de travailler à partir de ce dont on dépend. On dépend de l'eau du lait, hein, qu'on boit, et travailler à partir de fiction. Puisque dans ce projet, il y a cette base fictionnelle d'une lettre qu'aurait reçue la métropole. Le lait se plaint des mauvaises relations qu'il entretient avec
c'est
les habitants. C'est lait
qui manifestait sa mauvaise humeur.
Exactement. et donc de l'importance et la nécessité de restaurer les relations entre le lait et les habitants. Effectivement, ça a prototypé une manière de travailler et de toujours d'avoir, notamment avec Pascal Ferren, hein, philosophe, urbaniste, auteur aussi avec nous, d'avoir ces espèces de petites fictions prétextuelles qui nous permettent de poser un cadre de travail et à partir de là, de travailler, de rassembler autour de cette mini-fiction.
Alors, deuxième opération, restons à Montpellier, donc sur notre fleuve, notre rivière plus exactement, la Maussan, avec le lancement de la conception d'un atlas culturel et relationnel, on retrouve le mot rationnel. Alors, de quoi s'agit-il, hein, quelques mots, comme fois, voilà, parce que c'est un projet qui a démarré, mais qui n'est pas arrivé à son terme.
Non, qui est en train de se dérouler. Effectivement, c'est une suite, parce que c'est aussi pour nous l'idée d'aborder le bassin versant dans son ensemble, peut-être. Et on espère que d'autres projets vont arriver pour explorer cette approche plus large. Et donc, on s'est intéressé à la rivière Maussan, qui est une rivière qui n'a pas forcément bonne presse, bonne image, et qui est assez peu connue, plutôt dégradée. Et l'idée, là, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait avec le Lez, hein, c'est de... Pourquoi Atlas culturel ? Parce que l'idée, c'est de travailler plutôt la cartographie. On collabore avec un artiste de Marseille là-dessus qui s'appelle Julien Rodriguez, qui travaille beaucoup les cartes sensibles, les cartes affectives. Et là, c'est de descendre la rivière, de la source à l'embouchure, avec des habitants, de se balader autour et de relever leurs attachements, leurs relations. Là, on essaye en fait d'être un peu précis sur la qualification des relations, des sensations, des émotions que les habitants, les riverains, peuvent avoir avec cette rivière. Et on va reporter tout ça sur des cartes que Julien va nous dessiner. Et ce sera restitué à la fin. Tout ça, c'est aussi un projet dans le cadre de M28 Terre de Culture, avec un fort partenariat avec le PTB Lez Maussan et Terre Valavasien. Je le signale parce que c'est important.
Le PTB, c'est la structure d'établissement public de bassin de territoire.
C'est ça, pardon.
Je précise.
Tout à fait.
C'est la structure qui rassemble les collectivités partenaires et État et collectivités locales concernées par l'aménagement.
Absolument,
et la préservation de la rivière.
Oui. Et du bassin versant dans son ensemble. Et je signale ce partenariat, d'une part parce qu'il est très riche et étroit, mais aussi parce qu'il nous positionne à l'endroit où on essaye d'être, c'est-à-dire que, évidemment, on travaille les habitants, la population, etc., mais notre objectif, d'ailleurs, notre intention, elle est quand même beaucoup de se rapprocher, voire de pénétrer un peu les systèmes administratifs, c'est-à-dire les organes, les institutions, les procédures qui gèrent les milieux naturels, qui gèrent un cours d'eau.
Alors ça, c'est un véritable maquis, me semble-t-il.
Oui,
c'est complexe. Je connais un peu, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants.
Il y a beaucoup de
couches.
De
niveaux différents, de compétences différentes. Donc
parfois, elles se superposent.
Mais en même temps, en tant qu'acteur privé, je me tourne vers vous, Mathieu, c'est cette idée, parce qu'il y a un autre sujet qu'on aurait pu aborder, qui est cette idée de services publics, hein, qui travaillent sur les relations. Vous êtes un acteur privé, vous intervenez sur un sujet, je le répète, d'intérêt général, de bien commun, et il y a bien cette coopération, cette articulation avec des commanditaires, des cofinanceurs ou des co-concepteurs dans l'univers public. Comment ça se présente, comment ça se passe, là, cette approche spécifique encore, hein, approche culturelle de la transition écologique, pour résumer hâtivement.
Oui, c'est ça, mais c'est bien résumé, parce que c'est surtout le rôle qu'on peut tenir dans cette histoire de transition écologique, le rôle des artistes et nous, producteurs, qui accompagnons la création, le rôle des récits, le rôle des imaginaires dans cette transition. Et je disais tout à l'heure, imaginer mieux, c'est ce qu'on s'efforce de faire et de construire. Et donc, on construit des dispositifs collectif, on va répondre aussi à des commandes publiques, mais parce que les collectivités en ont besoin et puis commencent à sentir aujourd'hui, commencent à déterminer qu'est-ce que ce besoin. Quoi.
Alors on voit bien que la transition écologique, bon, s'il y a des freins, hein, politiques, idéologiques, culturels au sens large, sociétaux, qui mettent en péril, je dirais, l'avancée d'un certain nombre de politiques publiques. Et ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que, bon, d'accord, il y a de la technocratie, il y a du juridique, il y a de l'administratif, il y a de l'argent public, mais il y a aussi l'imaginaire, la culture, la part, je dirais, de projection auquel vous invitez les participants à vos opérations. C'est un peu ça, là, parce qu'on est englué, hein, dans les règlements, un communicant public, hein, ou ancien, qui parle, je dirais, le cumul des injonctions sur l'alimentation, sur la circulation, etc., etc., ce qui a un effet à coup sûr négatif. Et c'est la perception de ce phénomène qui est un des ressorts de votre activité.
C'est un peu le constat que la dimension plus sensible, citoyenne, comme je disais au tout début, hein, on est tous des êtres de sensibilité, d'émotion, on a tous des relations avec une entité naturelle, hein, quand on creuse un peu, on voit bien, ou le souvenir de ça, en tout cas, de quand on était enfant, et qu'aujourd'hui, c'est pas pris en compte, cette dimension-là, du tout, que l'administration sait pas comment faire, évidemment, c'est, voilà, qu'il y a quand même un poids de la technique et de la science très très fort chez nous, dans nos sociétés modernes, et en même temps, une envie d'aller vers ça, parce qu'aussi peut-être un constat de on ne sait plus trop comment prendre le problème.
Oui.
C'est exactement pour ça aussi que je ne l'ai pas cité, mais on a un partenariat très fort avec l'Office français de la biodiversité qui réfléchit à comment aujourd'hui mobiliser, sensibiliser, rendre acteurs les gens sur la question de la préservation de la biodiversité, de lutter contre l'effondrement de la biodiversité et qui a besoin de...
Comment on s'y prend.
Oui. Et on voit bien dans nos collaborations avec les institutions publiques, que je parlais de l'EPTB tout à l'heure, à quel point ça fait du bien aux personnes, aux équipes, en fait, tout d'un coup, quand on arrive, nous, avec nos petits outils, nos petites approches très simples, hein, nos méthodologies hyper simples, déjà, eux, ils respirent.
Eh oui, ça leur donne de l'air.
Ça
les sort du carcan technocratique.
Qui est nécessaire, hein, parce qu'en plus, on n'arrive pas en contre. Hein, nous, on n'est pas dogmatique. On n'arrive pas en disant on vire la science, on vire la technique, il n'y a que le sensible qui compte. Ce serait complètement idiot, évidemment. Mais voilà, ça fait du bien à tout le monde. Et puis surtout, ça permet de faire un pas de côté, ça ouvre les imaginaires. Et puis, on touche un peu plus les gens, en fait. Les gens au sens large, quoi.
Et c'est des manières d'enquêter aussi par les arts, par les sciences, par la cartographie.
C'est bien le croisement de ces approches, je ne sais pas si le mot vous convient.
Oui.
Parce qu'il y a un côté, on prend un mot du vocabulaire des fleuves, une confluence, je dirais, dans votre manière de travailler, qui peut-être vous caractérise, vous n'avez peut-être pas l'exclusivité de ce genre d'approche.
Non, on
n'a vraiment
pas.
Mais en tout cas, elle vous distingue.
On n'a pas l'exclusivité, effectivement. Aujourd'hui, ils sont nombreux, les acteurs qui enquêtent par les arts, par tout un tas de choses. Hein. Et alors, c'est vrai qu'on a du mal à situer, souvent on a du mal à se présenter.
Oui, on voit bien.
Ce qui est bien, c'est qu'on a du mal à nous mettre des étiquettes, tant mieux, parce que après presque 30 années d'expérience, on est content de ne pas avoir d'étiquette. Et puis on est très libre aussi de ça. Mais il y a réellement tout un mouvement un peu post-disciplinaire aujourd'hui.
Donc vous êtes des acteurs.
On y participe.
On va terminer là-dessus. Le mot qui me vient, c'est la foi ou encore l'engagement ou l'esprit d'initiative que vous mettez en œuvre à cette occasion.
L'envie d'avoir envie, oui.
L'envie d'avoir envie. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie l'un et l'autre de votre contribution au savoir et à la bonne compréhension des auditrices et des auditeurs. Et puis, on vous retrouvera sur les bords de la Meursan, sur les bords de l'Est. On ira voir la cartographie sensible qui est en gestation quelques semaines.
Le 27 septembre à Grabel.
Très bien.
Et rendez-vous là, donc. Des balades
sont proposées. Bon, on trouve les informations sur le site de la métropole et sur le vôtre pour qui veut, allier le plaisir à la connaissance. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci, Alain.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché ?
ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, pur jus.
Bah, Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.